Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h25, la suite des grands débats ce matin avec nous, toujours Philippe Bilger, nous sommes toujours avec Thierry Garrier, avec Eric Revel, vient d'arriver Frédéric Dabi, bonjour Frédéric. Beaucoup de nos auditeurs parlent de ces législatives comme un feuilleton. C'est presque ça, c'est presque un feuilleton.
C'était Netflix quotidien. Que disait en fait tout à l'heure. Mais ça vous choque pas là, ces histoires quand même de parachutage
non,
ça fait des années que ça dure et ça continue.
Patrick,
vous avez entendu Ronan Loisse en fait tout à l'heure. Moi je suis un élu local. Je fais mon boulot depuis des années, je suis soutenu par tous les élus,
attendez,
et on m'envoie quelqu'un qui, évidemment...
Ça illustre pour moi, mais alors de manière implacable, ce qu'est la politique en réalité. D'abord, il y a neuf que ce qu'on a oublié, pardonnez-moi, mais les parachutages, il y en a toujours eu. Je vais vous en citer un, très célèbre, qui a mal tourné d'ailleurs, c'est celui de Claude Guéant, à l'époque numéro 2 de la sarkozysme, qui arrive dans une circonscription de centre-droit à Boulogne, dont le tenant est Pierre-Christophe Baguet, le maire de Boulogne. Et il est parachuté, Claude Guéant, au prétexte qu'il avait habité un petit peu à Boulogne, et il se prend une raclée. Et puis, ça illustre quoi ce parachutage en Bretagne, au-delà du fait que ça a toujours existé. Encore une fois, je ne justifie pas, je constate. C'est que ça illustre les dissensions absolument incroyables qu'il y a au cœur de Renaissance Ensemble, La République En Marche, entre les macroniens macronistes et Horizon d'Edouard Philippe. On dit que les petits mots qui fusent de Macron sur Edouard Philippe sont terribles. Donc en fait, ce parachutage, il illustre ce qui a toujours existé en politique, malheureusement, constat, pas justification, parachute des gens, et puis là, ça illustre les tensions très fortes, me semble-t-il, entre le parti Horizon d'Edouard Philippe et ce que veut continuer de contrôler Emmanuel Macron, puisqu'on dit que même c'est lui qui, sur les 577 circonscriptions, met des croix et des traits sur ceux qui va investir.
Deux idées très courtes.
J'étais un peu long.
Édouard Philippe, le président de la République, ne veut pas qu'il devienne le pivot de sa future éventuelle majorité. Deuxième idée, ce que vient d'expliquer Éric Revel à l'instant, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que arbitrage parisien, Philippe Bilger était d'accord avec moi, arbitrage parisien qui prime sur la réalité du terrain, et je pense que Frédéric Dabi sera d'accord avec moi, au bout du compte, c'est l'exemple même de Boulogne-Billancourt et de Claude Guéant. Les Français, les électeurs, finissent, quelle que soit leur opinion, c'est-à-dire même s'ils sont d'accord avec le président de la République ou avec Jean-Luc Mélenchon par exemple, c'est eux qui décideront. Ils considèrent que le terrain, c'est eux qui ont le dernier mot.
Et vous savez qui avait battu le parachuté Claude Guéant à Boulogne.
C'est Thierry Solaire.
Un autre maintenant est macronien.
Frédéric Dabi.
Oui, bonjour Patrick. Oui. Je vais commencer exactement de la même phrase que Éric Revel, c'est « ça reflète bien ce qu'est un scrutin législatif ». C'est un scrutin national, il fait suite à la présidentielle, il a perdu son autonomie, donc il peut y avoir des parachutages, des candidats surprises dans telle ou telle circonscription, mais c'est également un scrutin local.
C'est ça.
C'est également un scrutin qui a permis à beaucoup de députés de droite, un petit peu du PS,
quand ils sont bien implantés, ils peuvent gagner.
Résister à la vague Macron en 2017 ou résister à la vague Hollande en 2012. Donc il y a ce mix-là. Alors déjà, par rapport à ce qui est à ce feuilleton Netflix, Renaissance, Ensemble, Horizon, premièrement, et on le voit dans notre baromètre Paris Match, des conversations des Français. La vie des organisations partisanes n'intéresse pas les Français.
Les changements de
dénomination, c'est pas que ça, ils en auront le bol, Patrick. Ça ne les intéresse pas. Ouais. Ça ne les touche pas personnellement. Alors que ça s'appelle cet ensemble En Marche. Alors ça. Renaissance, c'était le nom de la liste aux élections européennes qui était le seul scrutin intermédiaire gagné par la majorité lors du quinquennat. La République En Marche, ça sanctionne aussi l'éclatement parce qu'à l'Assemblée, ce groupe a éclaté en mai 2020. Mais ça intéresse très peu les gens. Par contre, les parachutages, c'est vrai, comme le dit Thierry, les électeurs trancheront s'ils vont voter. Ouais. N'oublions pas que l'enjeu de ces élections, c'est d'abord et avant tout pas du ripollinage, pour reprendre une phrase célèbre, des questions de dissidence, c'est est-ce que les électeurs vont aller voter.
Oui, c'est ça. Alors, intéressons-nous maintenant, je pense que voilà, il y a toute cette tambouille, et on va y revenir, mais à un autre niveau tout à l'heure, si je puis dire, c'est sur la gauche. En fait, en tant que tel, on y reviendra aussi avec Renaud Dely qui a écrit ce livre « Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès ». On est en plein dedans avec ce qui s'est passé cette semaine et ça va être une bonne conclusion avec lui. Sur notre baromètre, notre balise où on pose des questions chaque semaine avec vous, Frédéric Dabi et l'IFOP, sur le degré d'optimisme face à l'avenir. Où en sont les Français en fait, aujourd'hui
extrêmement parlant, ce baromètre. Alors, c'est une question qu'on n'a pas inventée pour cette semaine. Hein. On la pose depuis 1995, l'optimisme pour l'avenir. C'est pour soi et pour ses enfants. Donc, c'est un optimisme de projection.
Oui, c'est ça.
L'optimisme n'est que de 34%. Ouais, c'est extrêmement peu. Et ce qui est très intéressant, ça n'a jamais été aussi peu depuis 2012, après une élection présidentielle. Ouais. On l'a vu en 2007, l'optimisme était très fort. Ouais. On l'a vu en 2017, l'optimisme était majoritaire. L'optimisme retombe de 12 points par rapport à une enquête faite au mois de janvier, on voit très bien que l'opinion n'en peut plus des chocs qu'elle encaisse. Choc terroriste, choc Covid, choc de la guerre en Ukraine, campagne qui n'a pas, je dirais, purgé les choses. Et ce résultat particulièrement inquiétant, l'optimisme est minoritaire dans toutes les catégories, sauf les électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour. Alors, une fois de plus, on a souvent
analysé...
Eux
sont à 57%.
Voilà, c'est, il y a un volontarisme
cette,
chez
cette
eux.
France, cette France qui va bien, cette France
qui va mieux. Non, mais c'est ça.
En tout cas, ce qui est particulièrement... notable. Alors que et ça annonce peut-être en filigrane un quinquennat compliqué, c'est que ce quinquennat, l'état de grâce n'existe pas. Ouais. L'optimisme qu'on a connu en 81, en 95, en 2007, n'est pas au rendez-vous.
66% de pessimisme.
Hein, dont 20, dont 16 de très pessimistes.
Ouais. Voilà,
c'est marrant
ça.
Parce que cette balise, ce sondage, ça, Frédéric Dabi ne pouvait pas le savoir, il y a un papier qui a été publié dans The Economist. Il y a une espèce
de... En anglais, non, je ne peux pas savoir.
Non, mais je vais vous expliquer. C'est marrant parce que ça répond exactement à ce que vous... Et les Anglais s'étonnent dans ce papier, enfin le type qui a rédigé,
c'est un journaliste. D'une absence d'optimisme.
Exactement. Il dit, mais pourquoi est-ce que la France, dans l'état où elle est, ok, avec ses difficultés, mais comme tout le monde,
nous,
avec la
Anglais.
Crise sanitaire, avec machin, avec truc, pourquoi est-ce qu'elle continue à broyer du noir et que les Français considèrent qu'il pleut toujours chez eux, alors qu'il pleut plus en Angleterre, au sens deuxième du terme, qu'en France.
Oui, Frédéric Dabi, un mot de commentaire de Philippe Bilger, peut-être, sur cet
mais
état
je,
de pessimisme.
Je crois que profondément dans l'esprit français, il y a une défiance structurelle à l'égard du discours politique. Et le deuxième élément, c'est pour ça que je continue à respecter le métier politique. Parce qu'il n'est pas facile de faire passer un message de volontarisme obligatoire, sinon tout pouvoir est discrédité, par rapport à ce pessimisme profond de l'opinion publique. C'est très difficile.
Oui, c'est vrai. Frédéric Dabi, d'autres questions posées aussi dans cette balise, et notamment peut-être sur la... qui incarne l'opposition?
C'est intéressant
parce que... Qui incarne l'opposition aujourd'hui face à Emmanuel Macron, à votre avis?
Vous savez, vous avez remarqué, c'est une question qu'on pose dans le baromètre Paris Match Sud Radio. C'est intéressant de voir les conséquences de l'élection présidentielle. On voit que les partis historiques de gouvernement n'incarnent pas l'opposition. Ouais. 6% seulement pour le PS, 10% pour les Républicains. Et c'est clairement les forces extrêmes, les forces tribuniciennes. Premièrement, le Rassemblement National, 38%. Qui incarne l'opposition à Macron, 34% pour la France insoumise. Et là, il y a une petite différence par rapport à 2017, où cette même question posée, c'était la France insoumise qui incarnait le mieux l'opposition. Elle l'a incarnée pendant 2 ans, jusqu'au mouvement des Gilets jaunes. À partir des Gilets jaunes, c'est le RN qui a le mieux incarné l'opposition.
En même temps, Frédéric, il y a une certaine vision légitimiste des Français.
Exactement.
Elle est arrivée en deuxième position, et
mais
il y a 5 ans, c'est le contraire.
En 2017, elle était arrivée aussi au
second tour. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais
c'est vrai,
vous avez raison, elle était à un niveau un peu moins élevé. Ouais. On voit qu'il y a vraiment, et on va voir, la traduction pour les élections législatives de ce sentiment. Alors, Europe Écologie Les Verts, qui était quand même la force montante aux élections intermédiaires, seuls 5% des Français voient cette force comme une incarnation de l'opposition Emmanuel Macron. L'accord NUPES, je ne sais pas comment on prononce, fait aussi monter, à mon avis, la France insoumise comme réceptacle du mécontentement ou comme alternative à Emmanuel Macron.
Merci. Allez, on va poursuivre dans un instant. Justement, vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon, de cette gauche qui coiffe en fait aujourd'hui l'ensemble quasiment des partis. Bon, il y a une scission. Qu'est-ce qui se passe du côté de la gauche? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une gauche contre le progrès? C'est ce qui est décrit dans le livre de Renaud Dely qu'on va accueillir dans un instant, éditorialiste, Anatomie d'une trahison. Il remonte évidemment le temps, en revenant à Blum, à Jaurès, etc. Et s'interroge sur ce qui se passe en fait actuellement. On va voir ça dans un instant.
Et vous voulez poser vos questions, vous voulez vous débattre, bien sûr. 0826-300-300, on vous attend sur cette gauche. Restez avec nous, c'est le bon matin.
Merci Philippe Bilger, Éric Revert et Thierry Garrier.
Merci, à tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.